Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 3000 milliards de dettes publiques. La France sera-t-elle la Grèce dans quelques mois? On ne croit toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. On croit toujours ça. Des fonctionnaires qui ne seraient plus payés. Des pensions de retraite divisées par deux, etc. Bruno Le Maire a dit hier que la cote d'alerte était atteinte. Le MEDEF lui a répondu ce matin qu'il y a bien longtemps que la cote d'alerte est atteinte. Atteinte et dépassée. 3000 milliards de dettes. À quel moment on dit stop? Je rappelle qu'on a emprunte désormais à 2% quand ces dernières années les taux étaient quasiment à zéro. 3000 milliards de dettes. Et le quoi qu'il en coûte reste d'actualité. Hausse du SMIC, RSA, APL, triplement de la prime Macron, chèque d'alimentation, prime transport, bouclier tarifaire sur l'énergie. Allons-y gaiement. Quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Attention au retour du bâton. La France peut-elle être un jour en situation de faillite, comme la Grèce il y a 10 ans? Pardonnez-moi ce matin de plomber l'ambiance. Mais il me semble que la question se pose. Adrien Spiteri, pour les infos.
Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition. Aujourd'hui, la Première ministre rencontrera à tour de rôle les chefs des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. C'est Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui ouvre le bal dans quelques minutes maintenant. Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros plus 50 euros par enfant seraient concernés les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à près d'un milliard d'euros. Et puis les soignants du CHU de Bordeaux appelés à la grève illimitée. Les syndicats réclament des embauches et des augmentations de salaire. Pour soulager les personnels, la direction a déjà annoncé la semaine dernière que 600 lits seraient fermés cet été.
Joseph Massescaron est avec nous, Vincent Hervouette, Alain Jakubowicz, qui est avocat pénaliste et qu'on a entendu vendredi pour un sujet passionnant, comment défendre l'indéfendable. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu sur notre plateau. Et Jean-François Copé, maire républicain de Meaux. Je suis évidemment pas un spécialiste de la dette publique et même de la finance publique, pour tout vous dire. Comme beaucoup de gens, c'est assez vague et assez brumeux pour moi. Il y avait un peu de provocation quand je parlais de la comparaison avec la Grèce. Je crois que la Grèce, c'est 200% du PIB de dette publique. Nous, on n'est qu'à 115 ou 120. Mais en revanche, on croit toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. Donc, est-ce que la France peut être un jour en situation de faillite? Est-ce que les retraites peuvent être divisées par deux? Est-ce qu'un jour, les fonctionnaires ne peuvent plus être payés? Parce qu'on arrête quand, en fait? 3000 milliards, quand est-ce qu'on dit stop?
En vérité, c'est plus que jamais maintenant. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est donc effectivement à 115% de dette oui. sur le PIB. Quand j'ai quitté mes fonctions de ministre du budget, on était à 63%.
Dans quelle année ?
C'était en 2007. C'était une autre époque, hein. C'était du temps où les chanteurs avaient de la voix. Hein. Objectivement, nous, on nous aurait jamais laissé, mon ami Thierry Breton et moi, parce que j'étais aux finances, il était à l'économie, quitter nos fonctions avec des résultats comme ceux qu'on connaît là. Alors, certes, il y a eu le Covid, ça, tout à fait d'accord. Certains nous disent même que sous Sarkozy, il y avait eu la crise des subprimes. Mais enfin, la vérité, c'est que l'Allemagne, par exemple, en 2012, après la crise des subprimes, alors qu'ils avaient eu deux fois plus de récession que nous, ils étaient à moins 4 quand on était à moins 2, ils étaient revenus à l'équilibre. Donc en réalité, il y a derrière tout ça un vrai débat qu'on n'a jamais voulu avoir avec les Français.
Je suis bien d'accord avec vous, mais quand je dis à quel moment on dit stop, ça veut dire que les gens aujourd'hui, les salaires sont trop bas. On demande une augmentation du SMIC. J'ai dit prime Macron, etc., qui est multipliée. On a le sentiment qu'on n'augmente pas les impôts. Nous sommes d'accord. On n'est pas dans une politique de rigueur budgétaire. Nous sommes toujours d'accord. Donc ma question, c'est quand est-ce qu'on dit stop, en fait ?
Ben, en réalité, c'est...
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je vais vous dire, moi, mon point de vue, il est assez simple. Je ne sais pas à quoi sert la politique si ce n'est pas pour dire ça aux Français. On n'a jamais voulu avoir ce débat avec eux.
D'accord.
Donc, à partir du moment où on n'en parle pas et où on n'annonce que les bonnes nouvelles, ben, forcément, à un moment ou un autre, on en paye le prix.
Bon, en tout cas, c'était assez intéressant.
Non, mais oui, typiquement, le seul truc dont on ne parle pas, c'est qu'il faut baisser les dépenses. Il faut les baisser.
Oui.
Et en réalité,
non, ça,
on
parle
pas.
De baisser des dépenses.
Mais on ne dit jamais lesquelles. On ne dit jamais lesquels. C'est ça notre sujet. Il faut assumer un truc tout bête, par exemple, qui scandalise dès qu'on le dit. Donc je prends mon risque, sur CNews dans la loi. À partir du moment où on se dit que fondamentalement, on doit augmenter les salaires pour permettre aux gens de s'en sortir par rapport à l'inflation, il n'y a qu'une seule condition, il faut travailler plus. Parce que si on déconnecte le niveau des salaires avec les prix par rapport à ce qu'on produit, eh ben à la fin de la journée, ça va être dramatique. Donc il faut qu'on travaille plus. Personne
ne le dit. Et plus longtemps peut-être.
Ben, quand je dis travailler plus, c'est plus longtemps, bien sûr.
Mais si, on le dit, mais les gens sont dans la rue.
Ben, ils sont dans la rue parce qu'on ne les a jamais préparés, parce qu'on n'a jamais valorisé ce qu'on fait.
C'est toujours la même chose, on n'a pas fait assez de pédagogie.
Ben, attendez, excusez-moi, mais je vous prends un exemple tout bête. On a vécu une crise sanitaire épouvantable. Il n'y a pas un Français qui a payé pour un vaccin, ni pour un test. On est le seul pays au monde. Pourquoi on ne le valorise pas ? Qui a payé ? C'est donc bien le contribuable. Pourquoi est-ce qu'à un moment ou un autre, on ne le dit pas ? Ce n'est pas dramatique de le valoriser. C'est un pays merveilleux, la France, mais qui ne peut pas éternellement... raser gratis, c'est impossible.
Bon. C'est très bien cette ligne, mais ça va être dur de trouver un accord de gouvernement avec cette ligne-là. Hein.
Pas d'accord.
Ça va pas être facile. En plus, par rapport à un Premier ministre qui a été choisi pour être censé être de gauche, ça va être un peu difficile.
Bon, alors,
beaucoup de courage.
J'ai le droit de répondre.
Mais vous en avez.
Vous êtes là pour ça, pour répondre.
C'est vrai.
Donc,
c'est vrai. Non, mais moi, je vous dis, mon point de vue là-dessus, c'est.
Remarque que vous n'avez plus de cravate depuis que vous êtes.
Ça dépend des jours.
Non, mais en ce moment, c'est.
Ouais. Voilà. Ça dépend
plus
des
de cravate
jours.
Depuis que vous êtes
comme
plus
je serai à côté de José Massescaron, n'ayons pas l'air de jurer. Donc, pour finir, juste pour répondre à ce que vous dites, moi, je pense en fait l'inverse, parce que c'est pas un accord avec eux au sens amiable. On n'est pas, il ne s'agit pas que LR aille dans un bistrot discuter amicalement avec En Marche. Moi, j'ai une approche très différente. Je pense qu'il faut tordre le bras, en réalité, à l'exécutif. En disant, mais attendez, vous n'êtes pas majoritaire et il y a toute une série de choses que vous ne faites pas. Sécurité, laïcité, compte public. Et nous, on sait plutôt faire ça, normalement, faire ces réformes-là. Donc faisons-les ensemble, et pas ensemble au sens amical du terme, au sens pour la France.
Au sens rapport de force.
Bah, s'il faut des rapports de force, on fera des rapports de force. Mais en tout cas, il faut le faire pour la France. Sinon, je ne vois pas à quoi ça sert d'être droite de gouvernement, sauf à regarder le plafond et à dire on fait du cas par cas.
C'est
la pire des situations.
J'ai peut-être surpris, c'est rare que je parle de dette publique, je l'ai dit comme beaucoup de Français, je ne suis pas un spécialiste.
En même temps, vous m'avez pris par les sentiments, parce que vous me parlez de tous ces sujets, j'ai été ministre des Finances.
Et c'est pour ça que j'ai voulu cette petite délicatesse.
Ah, ça me touche beaucoup.
Puisque vous étiez sur notre plateau, je me suis dit, je réfléchis parfois, c'est rarement.
Comme quoi, les gens sont méchants, parce qu'ils ignorent que vous êtes quelqu'un de délicat.
Non, je pense qu'au contraire, ils le savent précisément. Mais je savais que vous veniez sur notre plateau, donc je vous ai dit, j'ai parlé d'un thème que vous connaissez par cœur. Le Covid, ça m'intéresse.
C'est un thème qui nous engage tous quand même.
Le Covid m'intéresse, puisque le Covid repart dans tout le pays. Depuis 3 semaines, les contaminations repartent à la hausse. Et figurez-vous qu'hier, Christian Estrosi, qui était d'ailleurs chez Laurence Ferrari ce matin, a annoncé qu'il y aurait un pass vaccinal peut-être le 1er août. Et j'ai trouvé qu'il avait une forme de jubilation à annoncer ça, ce qui m'inquiète toujours. La crise du Covid a changé parfois les uns et les autres. Et je trouve chez certains une jubilation à dire « Ah, le masque revient, arrêtez de vous embrasser dans la rue, etc. » Écoutez ce qu'a dit Christian Estrosi, on en parle ensemble.
Si le gouvernement venait à imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver le vaccinodrome du Palais des Expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai des informations selon lesquelles le pass vaccinal d'ailleurs pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que naturellement chacun fera ce qu'il entend faire, mais qu'il est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, les embrassades, les serrements de main, le non-port du masque, etc.
Je n'aime pas ce ton. J'ai le droit de le dire.
Je n'aime pas donner l'exemple. Je n'aime pas les embrassades. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça, en fait. Mais bon, ça ne regarde que moi.
Il ne faut pas me regarder, hein, parce que c'est Christian Estrosi. Oui, mais j'ai compris qu'il allait être ministre de la Santé, parce qu'il annonce déjà les trucs.
Voilà, mais j'aime pas qu'on parle comme ça.
Oui, mais c'est...
Vous vous aimez ?
Non, mais moi, de manière générale, j'ai horreur de ça. Non, non, ça, je suis d'accord.
Voilà,
ça,
je n'aime
pas. Ça nous fait un point commun. Mais en revanche, il va y avoir un sujet de santé publique qui va arriver, là. Je le sens, là. Ouais.
Bon. Ah, si vous allez à l'étranger, là, j'étais avant-hier, j'étais en Grèce, à Athènes, ils sont revenus tous au masque dans les endroits publics, dans les transports. Et comme ils ont eu toujours, pour y aller souvent, toujours un point d'avance sur nous, hein, qu'il s'agisse du contrôle aux aéroports ou autres, je pense qu'en effet, on va en tout cas vers le rétablissement du masque obligatoire.
La Grèce. La Grèce et l'avenir de la France.
Vous me sidérez à un point, vous me sidérez. Vous savez combien il y a de personnes aujourd'hui en soins critiques en France ? Non mais sérieusement, vous savez combien il y en a ?
Je peux vous répondre sérieusement aussi ?
Oui.
C'est que la pandémie qu'on vit, oui, avec ces variants, nous savons aujourd'hui que ces variants, le variant actuel, il a deux particularités. D'abord, c'est que les symptômes ne sont pas toujours, les médecins qui sont intervenus pourraient le dire beaucoup mieux que moi, ne sont pas toujours ceux qu'on pouvait croire. C'est-à-dire parfois, ça se manifeste par une conjonctivite aiguë, parfois par des maux de ventre terribles, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a, c'est vrai, elle se propage. Oui. Mais le vrai problème auquel aucune étude ne donne aujourd'hui une réponse sérieuse, c'est que nous ne connaissons pas les conséquences de la pandémie. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a eu, on peut estimer que c'est terminé. Or, la plupart des médecins estiment que non, ce n'est pas terminé. Donc, si on peut, à travers...
On peut rester chez nous. Hein.
À travers... Non, mais il ne s'agit pas de ça.
Mais si, on peut rester chez nous aussi.
Mais non, ce n'est pas une logique binaire.
Si, on peut rester
chez nous. Non, parce que ce n'est pas une logique binaire. C'est juste une logique de bon sens.
Monsieur Estrosi était ce matin chez Laurence Ferrari. Il a peut-être apporté un point d'éclairage à ce qu'il avait dit hier. Écoutons-le.
Je n'ai pas d'informations. Hier, je tenais la séance de mon conseil de métropole. Et naturellement, j'ai, avec les 51 maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, décidé de prendre par anticipation, parce que j'ai les chiffres, je suis président du conseil de surveillance du CHU de Nice. On peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, il risque d'y avoir une demande de nouveau de passe vaccinale.
Et vous vous rendez compte l'état dans lequel sont nos amis ? C'est-à-dire que M. Massescaron imagine que tout le monde doit porter un masque dans la rue. C'est ça,
non,
ce qu'il veut.
Pas
dans c'est à peu près ça.
Non, pas du tout.
Où ça,
non,
vous
pas du tout. Pas du tout. Je dis que
uniquement
dans les transports publics. D'accord. Si non, mais attendez, juste une question.
Mais au restaurant, ils arrêtent le virus.
Vous êtes.
On ne rentre pas, donc ça n'a pas de sens.
Pascal Praud.
Oui.
J'aime beaucoup. Écoutez, prenez juste le temps d'écouter deux secondes. En France, on a pensé, depuis le début de toute manière, ça a été dit par les pouvoirs publics, que le masque ne servait à rien par rapport à l'ensemble des pays étrangers partout dans le monde, du Pérou jusqu'aux États-Unis, etc. On a considéré. Bon. Et comme en Israël, on a considéré que la seule solution était le vaccin, vaccin 1, vaccin 2, non, vaccin 3, d'accord, et bientôt vaccin 4. Bon, je pense que si on peut faire l'économie, en revanche, du vaccin, on peut tenter, non ? Pas vous.
Bon. Écoutons Benjamin Davido qui donne son avis parce que chacun est infectiologue aujourd'hui, mais lui il l'est un peu plus que les autres, donc je vous propose de l'écouter.
Certes, le nombre de contaminations il est inquiétant parce qu'il y a une circulation du virus qui est probablement plus importante que ce qu'on pense, car on dépiste beaucoup moins. Rappelez-vous, on était monté jusqu'à 1,6 million en début d'année, mais mettre le pass vaccinal dans cette situation et dans ces conditions ne me paraît pas la meilleure opportunité. Je pense que d'abord, il y a une défiance et beaucoup de questionnements face à cette dose de rappel. On peut discuter à tort, mais surtout, en réalité, l'enjeu, au-delà de ne pas saturer l'hôpital cet été, ça va être de pouvoir le protéger à l'automne et donc d'assurer une campagne de vaccination, probablement avec des vaccins deuxième génération, à partir, on l'espère, du mois de septembre. Et donc, mettre un pass vaccinal dès cet été, à mon avis, n'est pas la solution qui va rassurer les Français face à la nécessité d'une vaccination pérenne.
Jacques Bovidzou qui est très attaché aux libertés individuelles. On voit bien qu'il y a un avant et un après le Covid. On voit bien qu'on est prêt aujourd'hui à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant.
Bien sûr, oui, mais enfin moi je vais vous dire, ce matin j'ai pris le TGV, j'ai mis mon masque. Très bien.
Non pas parce que je crains.
C'est la liberté individuelle.
Mais voilà, c'est la liberté individuelle pour une raison très simple. C'est vrai que je ne crains pas, peut-être à tort, l'hospitalisation, mais j'ai un agenda chargé. J'ai chez moi au cabinet un certain nombre de personnes qui sont indisponibles parce qu'elles ont le Covid. Ben moi, j'ai pas envie de rester chez moi. Et si je peux maximaliser, mais
ça sert à rien.
Mais dans le TGV, je peux vous dire que vous quand vous êtes dans un TGV pondé, moi je voilà, peut-être bêtement, moi je me sens plus en sécurité avec. Voilà, c'est peut-être une bêtise. On me l'a pas imposé.
Non mais j'ai fait le choix. C'est une pure superstition.
Voilà. Vincent Hervouet,
c'est possible.
C'est une pure votre masque là, c'est un petit masque chirurgical. Qui vous protège de rien. Ça protège vos voisins éventuellement de vos crachats.
Mais c'est déjà
ça,
pas mal.
C'est ça. Oui, c'est bien, mais c'est une politesse.
C'est déjà pas mal.
Mais c'est en
mais l'éducation et la politesse, c'est...
Mais c'est, ce n'est pas voilà, tout à fait.
C'est à bannir.
Non, mais ce matin, il n'y a que des compliments. Pascal Praud est plein de délicatesse. Joseph Massescaron l'aime beaucoup. Et vous-même, vous êtes... Bon.
Non, mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre dans ce que vous avez dit, Pascal, c'est qu'il y a un avant et un après, c'est sûr. Au niveau des libertés individuelles, bien sûr, parce que c'est un recul permanent, bien sûr, et des libertés publiques. Ouais. C'est un recul permanent et une acceptation, effectivement, au nom de...
Et le pire, c'est qu'on va revoir les infectiologues dans toutes sortes de carabins sur les plateaux, alors qu'on n'en trouve pas un seul, ni dans l'annuaire, ni à l'hôpital. Ils seront en studio. Non.
Vous êtes...
Quoi ?
Exagérer un peu.
Vous plaisantez quoi ?
Après, on va dire que je suis caricatural.
Non. J'ai eu un petit traumatisme crânien il y a 15 jours.
Oui.
Eh bien, je suis allé aux urgences à côté, à Saint-Nazaire.
Oui.
Il y avait 11 heures d'attente.
Oui.
Je suis rentré chez moi. Non, je suis rentré chez moi après des heures et des heures d'ailleurs, pas tout de suite. Après, j'ai cherché à me faire faire un petit IRM, un scanner. Oui. Là, il y a 4 mois d'attente. 4 mois d'attente. Mais par contre, en passant à la gare de Saint-Nazaire, j'ai vu le ministère de la Santé qui faisait des grandes affiches publicitaires pour dire, je ne sais plus quoi, ma colocatrice est lesbienne et alors, le ministère de la Santé. Dans la même ville, le ministère de la Santé est incapable de vous soigner, de vous radiographier le crâne. Par contre, il est bon pour vous bourrer le crâne, il est parfait.
Je ne souhaiterais
c'est
pas
la
que
même chose.
Les médecins. Je ne souhaiterais pas que ce que vous avez dit sur la colocatrice soit mal interprété, cher Vincent Hervouet.
Non, je veux dire qu'il y avait une grande campagne d'affichage.
J'entends bien, mais je précise, le modérateur que je suis précise. Que,
vous êtes délicat et modérateur.
Oui, bien sûr, que je ne voudrais pas interpréter ou cautionner une interprétation d'une publicité que vous avez faite. C'est tout ce que je veux dire.
On donnerait dans
qu'elle ne soit mal interprétée.
On donnerait dans le politiquement correct sur cette antenne maintenant. Il y a effectivement longtemps que je suis pas venu, mais ça
La réalité. Tout peut être mal interprété. La réalité personnelle est vécue.
Non.
C'est qu'à Saint-Nazaire, vous ne pouvez pas vous faire faire une radio et vous ne pouvez pas vous faire soigner aux urgences quand vous avez un traumatisme crânien. Par contre, le ministère de la Santé est prêt à vous éduquer.
Il est homme politique depuis 40 ans. On a 3 000 milliards de dettes. Et de quelque côté que se tourne ce pays, l'éducation, la justice, la santé, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans ? On n'en sait rien.
Alors,
mais vous le répondrez après à Adrien Spiteri. Mais c'est vrai que c'est juste une catastrophe, en fait.
Pas 40 ans, en fait.
Non, mais ce pays, c'est juste une catastrophe.
Non, mais quand moi, perso, c'est pas 40 ans.
Et je suis d'accord.
Oui, mais parce que comme vous étiez délicat tout à l'heure, j'ai pas compris ce dérapage.
Vous comprenez
ça
bien.
Ça peut pas être 40 ans.
Vous croyez vraiment que c'est ce pays qui est une catastrophe?
Vous comprenez bien qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce pays. Puisque manifestement, on paye comme personne ne paye au monde. On a des dettes comme personne ne paye au monde. Et les Français vont mal. On est dans un état d'esprit catastrophique. Et rien ne marche. Donc il y a quand même un truc qui va pas.
Oui. Bien sûr.
Adrien Spiteri.
Bien sûr, mais de toute façon, un pays où vous avez un tel niveau d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est un pays où, en tout cas, on a la perception qu'on va mal, ça c'est sûr.
Arrêtez avec l'extrême droite. Arrêtez aussi avec l'extrême gauche.
D'accord.
Je veux dire, arrêtez.
Pascal,
je
veux dire un truc tout de suite.
D'expliquer que les gens du Rassemblement National sont d'extrême droite, que les gens de LFI sont d'extrême gauche, parce que je pense que vous avez le mauvais
alors,
logiciel.
Je vais vous dire, j'ai sûrement totalement tort.
En fait, ils disent ce que vous disiez il y a 40 ans quand vous étiez au RPR.
Ça recommence 40 ans.
Ou 30 ans.
Non, mais
bon.
Mais là-dessus, je vais vous dire.
Mais monsieur Spiteri, parce qu'on est très en retard, vous allez réfléchir à la réponse.
Non, mais je ne vais pas réfléchir à la réponse. Elle est tout de suite la réponse. Oui. C'est-à-dire que vous avez autant d'énergie pour interdire aux autres de parler que moi de vous dire que jamais vous m'empêcherez de dire ce que je crois profondément, c'est que nous, jamais, on doit accepter de laisser l'extrême droite et l'extrême gauche imposer des folies. Voilà. Et je vais vous dire, je viens pas souvent parce qu'on a tous des journées où on fait des tas de choses, mais puisque je suis là, j'ai vraiment prévu de vous le dire. Mais le cas échéant, même de vous le redire vous après, avez... je sais pas, c'est la météo, je sais pas ce que vous montrez.
Non, c'est pas la météo, c'est monsieur Spiteri.
Ah, pardon,
c'est les infos. Bon, mais en revanche, ça nous fait plaisir que vous soyez là.
Moi aussi, ravi, mais c'est bien. Puis ça va un peu donner une autre. C'est bien.
Non, mais pas. Mais...
Bon, allez, donnez-lui Monsieur la parole, au malheureux, parce Monsieur que depuis Spiteri. Tout à l'heure, il ne peut pas parler.
Yael Braun-Pivet, favorite pour devenir présidente de l'Assemblée nationale. La députée des Yvelines a quitté son poste de ministre des Outre-mer. L'ancienne avocate pénaliste pourrait devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le vote est prévu à 15h. UFC Que Choisir porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ses établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, 3 personnes ont été interpellées.
Bon, Jean-François Copé est avec nous ce matin. Je le remercie parce qu'il incarne chez les Républicains une tendance. Est-elle majoritaire ou pas? Je n'en sais rien.
Non, elle n'est pas majoritaire. Ou alors vous allez me dire que les poissons volants sont majoritaires alors que c'est rare dans l'espèce.
Bon, qui est plutôt une volonté de travailler avec Emmanuel Macron.
Ouais, enfin, c'est surtout de gouverner parce que sinon on va être bloqué et le pays va être bloqué.
Voilà. Alors vous avez fait, vous l'avez signé l'appel d'ailleurs de Estrosi et des maires de France. J'ai pas vu. Non, vous l'avez pas signé. Pourquoi cette tribune qui est dans le Figaro ce matin?
Bah non, parce que
c'est des maires qui ne se sont pas présentés d'ailleurs à la députation. C'est ça qui est extraordinaire, qui n'ont pas été élus par les électeurs des Républicains, mais qui disent aux Républicains ce qu'il faut faire.
Alors, peut-être on va nuancer là, tout de suite, en 2 secondes. D'abord,
Mais ils ne se sont pas présentés.
Non, mais vous savez qu'il n'y a pas que les députés qui peuvent avoir un avis dans ce pays.
Oui, surtout mais les députés, ils sont allés au combat. Oui, et ils ont été élus pour un programme d'opposition à Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement... c'est pour ça que je répète inlassablement la même chose. Je vais donc vous le redire avec beaucoup de plaisir ici. Il ne s'agit pas de gouverner dans une ambiance amicale. Il s'agit de changer radicalement un programme qui aujourd'hui ne correspond pas à ce que demandent les Français. C'est ce qui explique qu'ils aient voté comme ils l'ont fait. Voilà. Donc il n'y a aucune complaisance à avoir.
J'adore la notion de ne pas gouverner avec dans une ambiance amicale. En fait, on va gouverner avec, mais en tordant le bras, se faisant...
Mais bien sûr. Mais
non,
mais
c'est un peu curieux de c'est une drôle de conception de l'avec.
Mais attendez, cette conception, c'est les Français qui l'ont voulu. À partir du moment où nous n'avons pas une majorité absolue, on a un pays qui est en risque de blocage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que certains appellent du cas par cas. C'est-à-dire que... Je vais vous dire ce qui va se passer si on fait du cas par cas. C'est génial. Les bonnes réformes sympathiques, ce sera le PS qui les votera, genre chèque supplémentaire. Les réformes un peu dures, on les fera voter par la droite. Donc on aura vraiment tout perdu. Et en plus, on n'existera pas sur les réformes puisque on ne les incarnera pas.
C'est pas exactement ce qui s'est passé ça sous la période Rocard. Enfin,
allons
voir. Oui, bien sûr. Jean-François Copé, si vous étiez logique jusqu'au bout, vous demanderiez à ce que Mme Borne soit remplacée.
Bah oui.
Voilà une info. Alors Jean-François Copé demande le départ de Mme Borne.
Il fait mon job, vous avez vu. Il cherche la petite phrase pour l'AFP.
Il a bossé toute la matinée. Juste pour compléter.
Jean-François Copé demande le départ de Mme Borne.
Mais non, mais je vais compléter tout de suite.
Oui.
Il n'y a que le président de la République qui nomme les premiers ministres.
Oui.
Écoutez-moi.
Vous avez le droit d'avoir un avis.
Je l'ai donné, sur une chaîne concurrente.
Sur ce point-là.
Juste un petit détail quand même, c'est que s'il la renomme. Alors qu'il voit ce qui se passe en termes de blocage, de mon point de vue, c'est que, en fait, il n'a pas complètement atterri. Il n'arrive pas encore mentalement à accepter l'idée qu'il n'est plus le Jupiter sans contradiction possible des 5 années qui viennent de s'écouler.
Donc, vous souhaitez
que Mme Borne, elle va avoir un mal fou pour tenir une situation politique.
Donc, vous souhaitez que Mme Borne, vous dites que Mme Borne n'est pas la femme de la situation.
Ah mais non seulement je vous le dis avec beaucoup de tristesse, mais en plus, je pense qu'indépendamment de la personne qui est tout à fait respectable, je pense que la mission de Premier ministre là va être celle d'un politicien, d'un homme politique ou d'une femme politique qui connaît. D'accord. Les arcanes du Parlement, qui connaît intimement nous chacun d'entre eux.
Donc
et aujourd'hui, on n'est pas là-dedans.
Vous êtes sur la même ligne que François Bayrou, ce qui est bien, parce qu'à un moment donné, je vous ai cru plus mou que François Bayrou.
Oui, à ceci près, non, il n'y a aucune chance, mais à ceci près, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en désaccord. Mais en même temps, oui, je suis en accord avec lui quand il dit qu'on ne va pas faire, par une proposition de loi constitutionnelle, changer la constitution sur la question de l'avortement.
C'est
une question majeure, mais que plus personne ne conteste.
Donc en fait, vous êtes dans l'opposition.
Oui, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je suis dans l'opposition, mais avec l'idée que la droite de gouvernement ne peut pas laisser passer 5 ans où là, le pays va s'effondrer sur les questions de sécurité et de compte public.
Bon, on va marquer une pause. Il y a une réponse à la tribune de Christian Estrosi Desmaires qui a été faite par Olivier Marleix et Bruno Retailleau qui sont dans votre mouvement. Et,
ce n'est pas le cas de M. Estrosi qui nous a quittés.
Exactement. Je vous confirme qu'il vous a quitté.
D'où sa capacité à annoncer le pass sanitaire.
Là, manifestement, il y a une ligne qui n'est pas la même. Bruno Retailleau, il n'est pas sur votre ligne. Bon, on va en parler après la pause. On écoutera également des jeunes qui ne sont pas... par exemple, vous connaissez Guilhem Carayon?
Oui, j'ai fait sa connaissance à travers le tweet un petit peu virulent dans lequel il a demandé que je m'en aille tellement je n'étais pas d'accord.
Non, tellement vous étiez vieux sur deux, c'est ce qu'il a dit.
Et par ailleurs, il a dit que j'étais vieux. Voilà. Ce qui fait que ça vous fait un point commun avec lui, parce que vous avez expliqué que ça faisait 40 ans que j'étais là.
40 ans, ouais. Mais je sais.
Alors que 40 ans, même en recherchant, parce que pendant que vous m'avez dit ça, j'ai cherché 40 ans. Mais vraiment pas.
Non, mais pourquoi on cite souvent 40 ans?
Oui.
C'est 81.
Voilà. Et alors?
On considère que la France va mal depuis 81. Voilà, que ça commençait à...
Les authentiques RPR vous diraient à partir de 76. Hein.
Bon, oui, et puis depuis le dernier des Valois, certains disent que ça va mal. Bon, mais les authentiques...
L'histoire de France,
certains considèrent qu'en 81, un pli a été pris. Voilà, certains considèrent. Et qu'aujourd'hui, tu as un bloc de 40 ans où Jacques Chirac, derrière François Mitterrand, n'a pas forcément rectifié les choses. Sur certaines choses qui ont été faites...
Vous connaissez beaucoup de démocraties actuelles qui vont beaucoup mieux que la nôtre.
Mais ça n'a jamais,
été bien. Ce qui se dit couramment, c'est que Schröder a fait des réformes en France qu'il eût fallu faire et que la France n'a pas faites et qui ont permis à l'Allemagne d'évoluer mieux que nous. Je vous la fais courte. La pause, à tout de suite. Je remercie une nouvelle fois Jean-François Copé d'être avec nous ce matin parce que c'est intéressant d'échanger comme on échange à l'instant. Adrien Spiteri pour le rappel des titres et nous poursuivons sur le futur gouvernement Borne dans lequel M. Copé sera peut-être présent.
Jamais.
Jamais.
Non.
Pourquoi jamais?
Mais vous avez annoncé les titres. Alors on fait les titres ou on en parle?
Alors il y a deux personnes qui ont pris le pouvoir aujourd'hui sur le plateau. Monsieur Bassescaron et...
Non, mais parce que du coup, vous êtes embêté avec vos plannings et du coup, vous n'écouterez pas ce que je vous dis. Donc, finissons avec les titres et après, je vous jure, je prends le temps qu'il faut.
J'écoute avec attention. J'essaye, en tout cas.
Méfiez-vous des flatteurs.
Monsieur Spiteri.
Pas mon genre.
Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. Météo France actualise ses normales climatiques. Entre 1991 et 2020, la température moyenne annuelle en France était de 12,97 degrés, soit une hausse d'un peu plus de 0,4 degrés par rapport à la période précédente. Le nombre de jours gelés est notamment en baisse dans plusieurs villes de France. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou dans le Henan. Des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont d'ailleurs pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
Bon, on parle évidemment des deux tendances qui existent chez les Républicains. On a vu l'appel des maires de France, certains Républicains ont signé. Je pense à Franck Louvrier qui est sur cette ligne-là. Il faut aller travailler, il faut faire une coalition, il faut se mettre d'accord sur un... programme. Et puis il y a la réponse quand même de M. Retailleau et de M. Marleix, qui a priori n'est absolument pas Olivier Marleix, qui est donc le chef
président
du groupe LR à l'Assemblée nationale. Les parlementaires LR ne seront pas la roue de secours d'un macronisme affaibli. Les présidents LR et du Sénat, donc, puisque Bruno Retailleau est sur la même ligne, motivent leur refus de conclure un accord politique avec l'exécutif. Là, on n'est même pas entré dans le gouvernement.
on ne fait pas d'accord avec l'exécutif.
Tout ça, bon. Tout ça peut évoluer quand même.
Non, mais c'est deux tendances différentes quand même.
Raison,
tout peut
tout
toujours
ça...
évoluer, non, mais écoutez, c'est deux tendances différentes.
Ça peut évoluer, pourquoi? Parce qu'une fois passé le premier choc au lendemain d'élection, si on voit une situation de blocage, vous avez cité un certain nombre de personnalités, Franck Louvrier, vous avez des présidents de région, c'est pas rien, Nadine Morano...
Nadine Morano
Bien sûr.
Nadine Morano, elle n'est pas pour aller pour conclure un programme. Ou alors, vous l'avez eu hier soir et elle a changé d'avis.
Eh bien, vous lui demanderez. Il y a un certain nombre de personnalités.
Elle dit le contraire ici.
Eh bien, écoutez, ça prouve bien qu'on évolue. Pourquoi je vous dis
en
ça
en trois jours.
Pourquoi je vous dis ça? Moi, encore une fois, ça dépasse ma petite personne. C'est une question qu'on doit tous se poser. On ne peut pas accepter que ce pays soit bloqué.
Oui.
Or, aujourd'hui, institutionnellement, il l'est. Ce serait au bénéfice de qui? Je le répète, de la France insoumise d'un côté, du Front National de l'autre. Il y a un moment quand même où il faut se demander à quoi on sert. Et à quoi on sert? À servir l'intérêt national sur des sujets qui sont absolument gravissimes.
Il y a un problème de votre logique. Et vous êtes intelligent et en bon rhétoricien, c'est parfait. Mais c'est que vous faites peser la question sur les Républicains. Alors que c'est sur le gouvernement Emmanuel Macron qui doit être posé. C'est eux qui sont la source de blocage. On est bien d'accord.
Mais, c'est
pas les Républicains.
Mais ça n'étend rien contradictoire avec ce que je dis. Je vais vous dire une chose.
On pourrait le croire.
Le Premier ministre, vous êtes plutôt chez les Républicains ou il serait plutôt chez Renaissance?
Madame Catherine Vautrin, par exemple, c'est un bon candidat.
Ça m'intéresse.
Laissez-moi juste compléter. Parce que c'est effectivement un point tout à fait majeur et c'est très bien que je puisse avancer dans le raisonnement. Évidemment que le premier qui devrait tendre la main, c'est Emmanuel Macron.
Oui.
Regardez comme un certain nombre de ses ministres essayent d'une manière ou d'une autre de donner des signaux. J'entendais encore Gérald Darmanin le dire ce matin, c'est évident qu'on doit travailler avec les Républicains. Celui qui devrait faire cette démarche, personnellement, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, il va de soi que ça veut dire confier des postes ministériels majeurs aux Républicains. Je rappelle qu'il y a trois fois plus ou deux fois et demi plus de députés Républicains que de députés proches d'Édouard Philippe quand même. Donc ça se regarde quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, toutes ces questions doivent être mises sur la table. C'est à Emmanuel Macron de faire la démarche. Qu'est-ce qu'il dit pour l'instant? Il dit « débrouillez-vous entre vous, trouvez-moi une solution en 48 heures ». Et enfin, c'est là où je me dis, Jupiter, il n'a pas entendu que le roi était nu. Les choses ont complètement changé avec cette législative. Et je vais plus loin. Tous ces débats stupides qu'on a depuis des années, « Ah, il faudrait plus de proportionnel », on l'a, la proportionnelle. Et on va voir combien ça bloque complètement un système qui, grâce à De Gaulle, était un système qui était carré avec des institutions solides et qui sont aujourd'hui profondément fragilisées.
Si Emmanuel Macron ne tend pas la main, s'il ne change pas de Premier ministre, qu'est-ce que vous allez faire?
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, c'est encore une fois, je répète, aujourd'hui, celui qui est le président de la République et qui doit tirer les conséquences de cette décision électorale des Français, c'est à lui de le faire.
Écoutons Olivier.
Et nous, de notre côté, on doit être un tout petit peu préparé à une réponse qui soit plus intelligente que simplement de dire rien, jamais, débrouillez-vous.
Alors, Olivier Marleix.
Pour vous aider.
On va écouter Olivier Marleix parce que manifestement, il n'est pas intelligent et il n'est pas.
Vous dites ça?
Parce qu'il n'a pas une réponse intelligente, c'est ce que vous venez de dire.
Aujourd'hui, il a une situation.
Écoutez-le.
Je le connais.
Écoutons-le. Et puis vous réagissez. Vous me dites ce que vous en pensez. Olivier Marleix.
Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux à faire que de se vendre individuellement. Les 61 députés de mon groupe, en particulier, sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en étant unis qu'en se vendant individuellement.
Absolument. Ah ben là, j'ai rien à changer, je pense la même chose que lui. Alors là, il n'y a pas
pire que
les débauchages individuels. Regardez ce pauvre Damien Abad, dont la valeur ajoutée dans le dispositif est ce qu'elle est. Bon. C'est-à-dire qu'elle a disparu. Non, il faut que ce soit LR qui propose un projet de gouvernement.
Les jeunes républicains, on va écouter Guilhem Carayon, parce qu'il est sur une autre ligne que vous aussi. Il est un peu plus virulent. En fait, ils considèrent, eux, qu'il faut jouer le blocage, précisément, cette ligne-là, parce qu'ils pensent être plus utiles dans l'affrontement qu'en coopérant. Écoutons.
Moi, je crois que ce que veulent les Français, c'est voir de nouveaux visages. Non pas juste pour voir de nouveaux visages, mais voir des idées neuves, entendre des idées neuves. Et je vois Jean-François Copé qui annonce vouloir un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron. Je regrette que ce soit des vieux barons qui soient sur les plateaux de télévision pour aller défendre notre mouvement, pour aller défendre les Républicains, alors qu'on pourrait faire émerger des jeunes qui diraient quelles sont leurs convictions et quel est le projet qu'ils veulent porter pour le pays.
D'abord, je voudrais dire à Guillaume Carillon que je suis quand même beaucoup plus jeune que son père, que je connais bien, qui est Bernard Carillon, avec lequel nous avons bataillé ensemble pour nos valeurs. Et donc, je pense que je ne suis pas certain que son papa adorerait que de savoir que son fils le traite de vieux baron. Deuxièmement...
Baron ou barbon?
Baron. Non, il est allé jusqu'à Baron. Il n'a pas été au-delà, encore que c'est peut-être pour la semaine prochaine. Vous savez, il y a des moments dans la vie où quand on est jeune et qu'on peut bénéficier des antennes, on peut être tenté de moments d'égarement. Et je parle en connaissance de cause. Simplement.
Oui, enfin, ça toujours depuis que la politique existe. Oui, Jacques Chirac, il est parti avec 43 députés et contre Chaban Delmas. Vous voyez ce que je veux dire?
Absolument aucun sujet.
Ça peut arriver.
J'ai absolument aucun sujet avec ça.
Mais vous entendez ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, selon vous?
Qu'est-ce qu'il dit? En gros, il dit place aux jeunes. Voilà.
Non. C'est pas ça qu'il dit. Non.
Il dit place. Écoutez, il dit place aux jeunes et il dit il faut tout bloquer.
Bon. Non.
Il dit que les Français ont envie de voir.
Non, il dit pas ça.
Jeune, le sien,
il dit pas ça. Vous ne l'écoutez pas. Il dit ce serait bien que les jeunes défendent les vraies valeurs des républicains et non pas celles qui sont vendues par vous, il y a une sorte de glissement, et c'est un reproche qu'on peut vous faire. Le RPR a glissé sur la gauche au fil des années, il s'est chiraquisé, et c'est un reproche qui est fait aux Républicains. D'où Reconquête, d'où Rassemblement National, etc. On est venu vous piquer vos électeurs, et le seul qui avait réussi à les refaire venir, c'était Nicolas Sarkozy en 2007, par une campagne à droite toute. Voilà ce qu'il vous dit.
Alors, je vais vous répondre, j'attendais tellement avec un patience qu'on y arrive. Je suis un peu venu pour ça. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas me le dire à moi. Parce que moi, je suis l'inventeur d'un concept qui est la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée? Et Dieu sait si elle a fait couler d'encre et créer des critiques dans tous les sens de gens qui faisaient semblant de ne pas comprendre. La droite décomplexée, c'est une droite qui est en situation de pouvoir tout dire sur tous les sujets, à condition d'être étanche avec le Front National. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes un parti de gouvernement, ce que n'est pas le Front National, et qu'on n'a donc pas la même vocation. L'extrême droite comme l'extrême gauche, ils sont là pour contester, pour déstabiliser, pour renverser la table. Là où nous savons très bien que face aux problèmes complexes, il faut des réponses qui soient beaucoup plus profondes. Première remarque. Deuxième remarque. Vous avez devant vous quelqu'un qui, au nom de la droite décomplexée, a fait porter une loi d'interdiction de la burqa en France, a dénoncé, à un moment où j'ai eu un torrent d'injures, a dénoncé des histoires du quotidien, et notamment celle de voyous qui, à mots, avaient arraché le fameux pain au chocolat des gamins, lui disant « tu manges pas pendant le ramadan ». Que n'ai-je entendu à l'époque? Aujourd'hui, ça ferait même pas une dépêche compte tenu de ce qu'on vit. Non, je termine. C'est important.
Non, mais c'est intéressant.
Il y a un moment où il faut. Moi, j'ai rien contre les gars qui viennent me dire ce que je dois faire. Rien. Chacun fait ce qu'il veut. On est même sur CNews ou ailleurs. C'est pas un problème. Mais moi, je suis maire d'une ville où on a le reflet de la société d'aujourd'hui et où on a trouvé des solutions. En cassant les tours, en mettant des polices municipales armées, en faisant donc diminuer la délinquance, en voyant les choses tout à fait autrement.
Il n'y a pas de rodéo urbain, par exemple, chez vous?
Bien sûr qu'il y a des rodéos, comme partout, sauf qu'on a des réponses qu'on proportionne avec un taux d'élucidation beaucoup plus élevé parce qu'il y a des caméras, etc. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, il manque à ce pays un pan de gouvernance à droite sur les questions régaliennes que seul un parti de gouvernement de droite doit pouvoir assumer. Or, nous avons les talents chez nous pour le faire. Le problème, c'est que comme ça fait des années qu'on est dans l'opposition, parce que nos aînés à droite, les vrais, parce que j'ai compris que j'étais doyen de l'humanité, mais j'ai encore plus vieux que moi, vous voyez, des gens comme Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui ont eu pour objectif, d'une manière ou d'une autre, un, de se finir entre eux, et deux, de veiller à ce que personne à droite ne leur succède. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Moyennant quoi?
C'est la faute de vos aînés.
Pascal Praud, vous connaissez votre histoire de France. Mais vous le savez parfaitement. Mais la grande différence. Moi, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. C'est pour ça que je dis à tel ou tel, j'ai pas d'état là. Je suis pas en charge. Si je dis tout ça, c'est parce qu'il faut bien que de temps en temps, il y ait des voix qui soient un peu extérieures et qui mettent les pieds dans le plat.
Ils pourraient vous répondre qu'on réussit ce que vous avez pas réussi à faire, prendre le pouvoir. Mais bon.
Ben bien sûr, mais sauf qu'ils l'ont perdu le pouvoir, je rappelle. Et c'est pas faute d'avoir été à leur côté.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
Attendez,
non, mais c'est terminé.
Juste un mot. Pourquoi ils l'ont perdu? Parce qu'effectivement, il y a eu des concessions qu'on n'aurait jamais dû faire à un certain nombre de nos valeurs. Et c'est ça qu'on ne doit pas lâcher. Et c'est pour ça que si on va dans un gouvernement, c'est pour retrouver ses valeurs et non pas pour les nier. Et c'est ça qui fait la différence.
Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets politiques. Je ne sais pas si Maître Jakubowicz ou Vincent Hervouette, pourquoi vous dites rien ? Et on peut parler. On avait d'autres sujets évoqués.
Il y a quand même peut-être à noter qu'on revient finalement toujours à cette bonne vieille tambouille d'équilibre. Moi, rien n'a avancé. Je veux dire que... Aujourd'hui, on a un président de la République qui essaie de trouver des équilibres, d'aller chercher d'un côté, d'aller chercher d'autre, ce qui s'est toujours fait. Et finalement, on va avoir quoi ? Un gouvernement qui va être... On va rechercher des équilibres plutôt que des compétences. Alors, c'est pas antinomique, pas forcément antinomique, mais moi, franchement, je vois dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la justice, moi, peu m'importe de savoir quelle sera la tendance politique du ministre de la Justice. J'ai envie qu'on avance, quoi. Franchement, j'ai pas ce sentiment.
Ce que dit Alain, ce qui est important, c'est que lorsque l'Italie s'est trouvée en situation de blocage, ils sont allés chercher en effet les plus compétents. Les Italiens qui pourtant avaient l'habitude des accords d'appareil, ils sont allés chercher les plus compétents. Oui. Et ils ne sont pas les sombrés.
Mais il n'y a pas de Mario Draghi en France. Il y a personne.
Je trouve ça extrêmement dommageable parce qu'on va avoir simplement un gouvernement qui sera une recherche d'équilibre plutôt qu'une recherche de compétences.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai aussi. Qu'en interdisant aux maires d'être députés, on s'est privé à l'Assemblée nationale de gens qui, sur le terrain, ont un certain nombre d'expérience.
Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Mais ce n'est pas
ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre, puisque vous parlez de compétences, de professionnels de la politique qui ont quitté ce métier. Oui. Parce qu'ils n'y voyaient plus la possibilité de l'exercer dans des conditions minimum de sérénité dont ils ont besoin. Ben vous n'avez pas vu toute ma génération. On a en réalité quitté les fonctions politiques.
Pardon de cette fixation, mais est-ce qu'on a besoin d'être un professionnel de la politique pour être ministre de la Justice ? Voilà, je vous pose cette question. Est-ce que c'est ça la compétence qu'on doit aller chercher chez un ministre de la Justice, qui est le sujet qui m'intéresse particulièrement ?
Je pense que la politique est un métier.
Manifestement, postule. Bon, c'est pour vous taquiner.
Je postule.
Adrien Spiteri.
Je pense que la politique, c'est un métier, que ça s'apprend. Il n'y a pas de raison. Être journaliste, c'est un métier. Être enseignant, c'est un métier. Être électricien, c'est un métier.
Ministre de la Justice, c'est pas un métier.
La réalité du service public de la justice, vous ne pouvez pas être serein pour l'exercer.
Il faut que la parole tourne. Et Adrien Spiteri, vous parlez beaucoup ce matin.
Il la prend, c'est ça, mais parce qu'il est brillant.
Je me suis dit, je suis là.
Il y a quelqu'un qui me dit, Monsieur Copé, tiens le crachoir aujourd'hui.
En tout cas, c'est très poétique.
Oui, c'est une métaphore. Bon, Monsieur Spiteri, et après on va parler de la sécurité, parce que cet état fort pour imposer un masque ou nous proposer de prendre un café debout, nous obliger à prendre un café debout, est incapable cet État depuis des semaines de résoudre le problème du crâne dans Paris.
Il y a plein d'endroits où ils n'imposent pas le masque.
Comment voulez-vous,
ils sont incapables de l'imposer, le masque.
Comment voulez-vous, Jean-François Copé, et j'ai bien conscience que je fais un peu de provoque en disant ça et qu'on peut dire que c'est un peu démago, un peu populo, mais comment est-ce possible cette affaire du crack dans Paris ? Tu as 200 ou 300 personnes, tu n'arrives pas à trouver la solution depuis des mois. Comment voulez-vous que les gens qui nous écoutent aient confiance ? Après, on dit ils vont plus voter. Mais à quoi sert le politique
et
aujourd'hui ?
Quel gâchis de ne pas avoir voulu parler de ça pendant cette campagne. On a parlé du pouvoir d'achat et on a interdit le débat sur la sécurité.
Monsieur Spiteri et Adrien Spiteri, pardon, et le crack. Le crack dans une seconde, parce que à Paris, ça m'intéresse. Votre avis m'intéresse.
Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition aujourd'hui. C'est Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui ouvre le bal. Il est arrivé il y a quelques minutes. Viendront ensuite les chefs des groupes socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée nationale. Le moral des ménages en baisse au mois de juin. Selon l'INSEE, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages perd 3 points sur un mois. Les ménages sont pessimistes sur leur situation financière et l'évolution de leur niveau de vie. Et puis le premier tour du tournoi de Wimbledon continue aujourd'hui. Dans le tableau, messieurs Richard Gasquet, Hugo Gaston et Benjamin Bonzi entrent notamment en lice. Côté femme, Alizé Cornet et Chloé Paquet tenteront de rejoindre le deuxième tour aujourd'hui.
Le crack à Paris, et on en parle dans le 18e, je vous assure, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. J'ai jamais été dans les fonctions que vous avez occupées. Je trouve ça incompréhensible. Je ne sais pas comment c'est possible. On va voir le sujet de Yael Benamou, parce que, en fait, ça paraît simple de dire tu vas prendre les gens, tu les mets en centre de rétention et c'est fini demain.
Et après ?
Et on ne le fait pas.
Et après ?
Et tu les laisses en centre de rétention et puis ceux qui sont en interdiction d'occuper le territoire, tu les renvoies. Mm-hmm. Enfin, c'est ça,
vous avez c'est compliqué, ça. Oui.
Manifestement, ce n'est pas possible. Alors, voyez le sujet et vous me dites ce que vous en pensez. Yael Benamou.
Allez, au revoir, monsieur. Monsieur. Merci. Allez. Monsieur. C'est un tard de monsieur dame.
Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis 9 mois.
C'est bien filmé. C'est tout le temps, c'est comme ça.
Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation.
On appelle la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Si on continue comme ça, on va fermer le restaurant.
Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent, tu me laisses terminer. Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et c'est pas évident. Toute la journée, je cours après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
Moi, la peur que j'ai, c'est que ce soit le monde de demain. Et j'ai en tête une phrase de Nicolas Sarkozy disant « En fait, l'immigration n'a pas commencé. Le déplacement de flux de population n'a pas commencé. »
Oui.
Mais là, c'est deux sujets distincts quand même.
Oui.
Non, mais là, je vous vois arriver sur le grand remplacement, mais c'est deux sujets
distincts. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, le flux de population. Non, c'était pas du tout ça.
D'abord.
Le flux de population, c'est ce qu'il avait dit une fois.
Juste peut-être un mot, alors là, pour le coup, d'expérience de maire. Des gardiens comme celui qu'on vient d'entendre, c'est des héros de la République.
Hein.
Et je pense qu'il faut quand même entendre ça. Comme d'ailleurs le gars du bistrot, il faut bien comprendre que vous avez toute une partie de nos compatriotes qui peuvent être aussi, je le dis ici, de confession musulmane, parfaitement intégrés, qui veulent bosser et qui n'en peuvent plus et qui sont les premières victimes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont particulièrement dans des villes où on refuse de manière systématique d'introduire des polices municipales armées qui viennent renforcer des effectifs de police nationale, que les choses ne se font pas. Et Paris est malheureusement, de ce point de vue, un véritable désastre. Et Madame Hidalgo a une responsabilité majeure, historique, à ne pas vouloir avoir de police municipale armée et de caméras. Nous
Alain avons Jacobovic.
Alain Jacobovic. Pardon, vous parlez là d'un sujet qui est effectivement extrêmement important, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre les liens entre tout ça. On voit ce reportage. Bon, on voit des intervenants. Je note d'ailleurs que
le lien, c'est le pouvoir politique.
Oui,
politique aujourd'hui.
Pourquoi c'est vous parlez là d'immigration passe à ça? Qu'est-ce que les musulmans viennent faire là-dedans?
Mais les musulmans, c'est pas moi qui en ai. Alors, je vais vous dire.
Je suis un peu. Alors, je vais vous dire. Surpris par ces raccourcis, quoi.
Alors, je vais vous dire. Les gens qui sont dans le 18e, ce sont des migrants. Ce sont des gens qui viennent.
C'est pas ce qu'il y avait dans le reportage, c'est pas ce qui est dit.
Il y a des mineurs isolés, il y a des migrants, il y a des gens qui viennent de tous les horizons.
Il y en a beaucoup qui ne sont ni
comme
migrants,
vous, comme
ni
vous
mineurs
dites,
isolés.
Comme vous le dites vous-même, qui viennent de tous les horizons.
La consommation de drogue en France est exponentielle. La consommation de cocaïne
est propre des migrants.
Vous avez à peu près 4% des Français. Des mineurs français.
C'est dans le 19e, hein, d'ailleurs, j'ai dit.
4%, c'est le 19e. 4% des mineurs français de moins de...
Il y a beaucoup de gens qui sont étrangers, c'est ce que je veux dire.
Alors voilà, on est déjà à beaucoup de gens et on n'est plus à cette systématisation. Non, mais...
C'était pas ma volonté de le faire.
Pascal, il faut faire attention.
C'était pas ma volonté de le faire. Vous avez sans doute raison, c'était pas ma volonté de le faire.
Il faut faire attention. Moi, je vois simplement une chose, puisqu'on veut dire les choses. Moi, je vois ce jeune homme, effectivement, c'est très... J'imagine qu'à force, ça doit être épouvantable dans ce restaurant qui vient solliciter, etc. Bon, ce monsieur est noir, clairement. Ça ne dit pas son origine, ça ne dit pas sa nationalité, ça ne dit rien d'autre que la couleur de sa peau est noire. Je vois voit que ce héros de la République, comme le dit notre ami Jean-François Copé, est également noir. Bon, voilà, moi, c'est tout ce que je vois dans ce reportage. Après, je suis pas angélique non plus, mais vouloir dire que le crack, c'est nécessairement des migrants, des gens qu'on doit mettre dans des avions et les renvoyer.
Bien sûr, j'ai pas voulu dire ça. Donc, si vous l'avez compris, si vous l'avez compris, je me suis mal exprimé. J'ai voulu dire que dans le 19e arrondissement, il y a une population qui effectivement est étrangère. Et effectivement, qui a migré en France pour plein de raisons, et des raisons parfois de sécurité.
Et la consommation en Europe n'est pas l'apanage des migrants.
Mais attendez, sur les faits divers, je suis désolé, mais sur les faits divers, parce que le crack est une drogue dangereuse, donc ce n'est pas se droguer, c'est une drogue dangereuse. C'est-à-dire les personnes, en effet...
Des drogues qui ne sont pas dangereuses.
Jean-François Copé a raison, c'est-à-dire que... Oui, mais tu risques ta vie tout de suite.
C'est une drogue qui est très addictive, c'est une substance...
Je ne dis pas pour la personne qui le prend, je dis pour la personne qui se trouve en face de quelqu'un qui est drogué.
Voilà. La cocaïne aussi.
C'est totalement différent, réellement. Et ça, c'est une drogue dangereuse. On voit que sur les faits divers, eh bien... Je suis désolé, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont migrants.
Alors, la pause,
il y a encore deux mois,
faisait la une sur M. Becbédé et la cocaïne.
C'est pas le crack.
Que M. Becbédé est un migrant.
Non, non, mais vous avez renvoyé.
La cocaïne,
c'était dans le 19e.
C'est pas le crack. Il y a une personne qui vient d'être jugée, une personne qui est d'origine camerounaise, qui est SDF, parce qu'elle a poussé une femme dans le métro, sur les rails. Oui, voilà. Parce qu'elle croyait avoir des bêtes. Non, et ça, c'est tout le temps.
Il y a plusieurs problèmes. Franchement, comme des polydépendances en même temps. Il y a un problème qui est la drogue.
C'était la sécurité. On marque une pause. Vous restez encore un petit quart d'heure avec nous ?
Oui, il faut que je parte à
10h. À 10h ?
Oui.
10h pile ?
10h, 10h05.
Ah ben oui, mais il est 9h54.
Oui.
Bon, je peux vous garder jusqu'à 10h05 ?
10h05.
Bon, 10h05. Bon,
sinon, qui va tenir le crachoir ?
Vous prendrez le rôle politique, voilà.
Je salue d'abord la mère de Jean-François Copé qui nous écoute, parce que c'est important.
Voilà.
Elle vous envoie des textos de temps en temps ?
Oui, bah oui, oui.
Même pendant vos émissions ?
J'espère que tous ceux qui ont la chance d'avoir leur mère et qui passent à la télé ont droit à des textos, oui.
Adrien Spiteri, le rappel des titres.
Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. UFC, que choisir ? Porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ces établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis, 3 morts après le déraillement d'un train aux États-Unis. Alors qu'il effectuait la liaison Los Angeles-Chicago, le train est sorti des rails après être entré en collision avec un camion à benne. Plus de 200 passagers ainsi que des employés de l'entreprise se trouvaient à bord.
Vous restez encore 5 minutes avec nous et ce thème de l'insécurité est un thème qui peut devenir majeur. Je disais tout à l'heure, j'ai peur que ce soit le monde de demain. Et je vois dans des villes, par exemple, que je connais bien, comme Nantes, qui se sont ensauvagées en 10 ans, 15 ans. C'est absolument incroyable ce qui se passe sur le terrain. Oui. Je voulais vous proposer un sujet sur le champ de Mars, l'insécurité au champ de Mars. Pareil. Et l'impossibilité du politique à répondre. Alors, est-ce que vous avez des solutions ? Oui. Que faut-il faire ? Et voyons le sujet de Jeanne Cancard et après je vous donne la parole avant que vous nous quittiez.
C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents...
Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention.
J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
D'autres se montrent plus insouciants.
Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit.
Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour repérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
J'ai ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille, parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente.
Ils sont tous les jours là, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non, ça devient un cauchemar, ouais.
Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
Jean-François Copé, le Stade de France a été une déflagration. Des touristes espagnols, quoi, des supporters espagnols, anglais, ont été dévalisés après le match, avant le match. C'était des attaques, c'était le Far West. Bon. Comment est-ce possible que ça continue en France et est-ce que ce pays va devenir, va être ensauvagé complètement ces prochaines années?
C'est la honte absolue. C'est la honte absolue. Un grand pays ne peut pas accepter d'avoir un tel niveau d'insécurité. C'est effrayant. La réalité, c'est que, en plus, on a des solutions. Et c'est ça qui me rend fou, moi. On a des solutions. Si dans les villes, vous avez des polices municipales armées, des caméras de vidéosurveillance partout, un partenariat permanent entre la municipalité, le parquet et la police nationale, la délinquance baisse méthodiquement. Ça ne veut pas dire qu'on règle tous les problèmes, ça veut dire qu'on a des réponses et qu'il n'y a donc plus ce sentiment d'impunité. Vous avez cité Paris, vous avez cité Nantes, deux villes qui refusent de manière idéologique de déployer partout des systèmes de vidéoprotection. Ça ne peut pas marcher. Quand la police, elle est aveugle, elle ne voit pas, il n'y a pas de solution. Alors si en plus il y a des effectifs insuffisants, il n'y a pas de présence. Donc sur ces sujets-là, c'est là où il y a des quartiers avec des tours. Il faut casser les tours et rénover. On ne l'a pas fait dans les quartiers nord de Marseille, on le paye très cher aujourd'hui. Partout où nous l'avons fait dans nos villes, ça a marché. Vous mettez des immeubles de 4 étages plutôt que des tours, c'est plus la même situation de délinquance. Il faut ces réponses-là. À partir du moment où vous ne les avez pas, il ne faut pas s'étonner.
Et Rennes, pareil, Florian Bachelier, qui était député jadis de circonscription de Rennes, m'envoie ce petit message également.
Mais bien sûr.
Rennes, pareil. Mais c'est vrai
j'ai
que
j'ai parlé avec Florian Bachelier de oui. ça. Il est oui. tout à fait d'accord là-dessus. Bien Toutes sûr. Ces villes sont bien des sûr. Villes qui sont livrées à la proie mais... des délinquants qui ne seront jamais poursuivis parce qu'on ne les trouve pas, il n'y a pas de caméra.
Allez le dire à la maire de Nantes. Bah, allez le dire à Johanna Roland. Allez le dire à Jean-Marc Ayrault qui a mis cette ville par terre pendant 25 ans. Alors, parce qu'il a refusé, parce que c'était une ville magnifique, parce qu'il a refusé tout simplement de mettre des caméras.
Vous et Nantes est aujourd'hui... Vous allez à Grenoble, c'est exactement la même
Donc,
chose.
Donc Nantes, que Vincent connaît également bien, est une ville qui a complètement changé. C'est-à-dire que tu ne sors plus à minuit le soir parce que tu as peur d'être agressé et les parents vont chercher les enfants.
Et ce qui se passe à Paris et au Champ de Mars, comme dans
souriez,
un certain nombre de quartiers de Paris,
je vous souriez. Moi, c'est une ville que je connais bien donc, j'en parle souvent. Mais ça me fait tellement de peine au fond.
Mais en fait, c'est assez drôle parce que vous stigmatisez de façon régulière le recul des libertés.
Oui.
Et en même temps, vous voulez mettre des caméras de partout. Donc,
mais c'est pas liberticide.
Circuler au Champ de Mars. Circuler au Champ de Mars tranquillement, même la nuit, c'est une liberté.
Je ne conteste pas le principe. Je dis simplement que le problème.
Je vous promets que c'est pas liberticide. Les gens les demandent. Si vous saviez le nombre de.
Mais c'est pas parce que les gens les demandent que c'est pas liberticide.
Mais non. Vous avez envie. Liberticide, ce serait d'être intrusif, d'avoir des caméras qui rentrent dans les appartements. Tout ça est interdit.
Heureusement. Vous voulez pas mettre de caméras.
Il y a des réglementations.
Je sais pas. Je pense que
vous savez pas.
Attendez, il y a des règles très strictes. Il y a des règles très strictes. Les images doivent être détruites au bout d'un certain temps. Elles ne peuvent pas être exploitées autrement que de manière.
On l'a vu au Stade de France.
Elles ont été détruites très très vite.
Ça, écoutez, ce qui s'est passé au Stade de France, vraiment, c'est un cas d'usage absolu de ce qu'il faut reprendre à zéro. Mais ça ne sert à rien de s'acharner contre le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de volonté politique au-dessus. La réalité, c'est que M. Macron, c'est pas ses sujets. Il déteste tout ce qui est régalien. Parce qu'il considère que ça peut nuire à l'image de on s'aime tous et tout est frais et printanier. Résultat des courses, on a des tensions comme on n'en a jamais eu.
Et c'est intéressant de vous l'entendre dire.
Quand on a des caméras de vidéosurveillance, quand on a une police municipale qui est présente, les gens sont rassurés. Et du coup, on invite aux gens, on leur dit, mais écoutez, souriez, vous êtes filmés et ça va tout de suite.
La présence de la police est une chose, les caméras, c'en est une autre.
Et c'est la même.
Merci, monsieur Copé.
Efficacité face à l'impunité.
Merci.
Merci
vous n'avez plus envie de retourner au gouvernement. Vous êtes lassé un peu de la politique. Vous trouvez que vous avez pris trop de coups. Que c'est...
Écoutez, en tout cas, je pense que les conditions aujourd'hui ont été réunies pour qu'un certain nombre d'entre nous ne soient pas en situation de vouloir à nouveau être des cibles aux baltrapes. Voilà.
Et vous pensez à qui avec vous, par exemple?
Vous savez, j'ai un certain nombre de mes amis qui ont pris du champ. Regardez François Baroin, regardez Luc Châtel. On était, par exemple, pour prendre tous les trois, on était vraiment formatés pour poursuivre notre engagement au niveau de l'État, au niveau national. Mais on a constaté tous les trois qu'il y avait... Mais surtout qu'il y avait une telle violence gratuite qu'elle rendait en réalité cette mission complètement décalée par rapport à l'ampleur des enjeux. Moyennant quoi, comme dit M. Macron, soyez fiers d'être des amateurs. Je pense que la politique est un métier, donc des professionnels.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est peut-être que, entre guillemets, les meilleurs, puisqu'on peut vous classer dans cette catégorie de gens qui étaient, qui avaient formaté pour cela, qui avaient choisi de faire de la politique, préfèrent aujourd'hui, on pense peut-être à François Baroin, ils pensent peut-être faire autre chose.
Oui, mais en même temps,
il y a trop de coups à prendre.
Il reste quelque chose de passionnant, c'est d'être maire, parce qu'au moins là, vous faites bouger les choses, vous trouvez des solutions et vous rêvez un jour d'en faire une vitrine pour la France.
Merci vraiment, merci beaucoup. Merci J'espère que cet échange vous aura plu, comme il nous a intéressés. Et revenez, bien évidemment, pour pouvoir échanger de nouveau sur ces sujets-là. On va être dans deux secondes en direct de Strasbourg avec Noémie Schulz parce qu'il y a le procès de Jean-Marc Reiser, le procès de Jean-Marc Reiser qui est accusé d'avoir tué la jeune Sophie Le Tan en 2018 à Schiltigheim. Et c'est toujours un moment que vous connaissez, vous, Anna Jakubowicz, ce qui se passe dans les salles d'audience, l'émotion qu'il y a, ce qui s'est passé hier, par exemple, lorsque la mère de Sophie Le Tan, qui était présente, n'a pas pu rester dans la salle d'audience, confrontée qu'elle était à M. Reiser. Bonjour Noémie Schulz. Elle m'entend, Noémie
Bonjour
Schulz.
Pascal.
Bonjour, deuxième audience aujourd'hui.
Deuxième jour d'audience, absolument, avec l'examen de la personnalité de Jean-Marc Reiser. Il sera entendu, bien sûr, sur les faits qui lui sont reprochés, mais ce sera en fin de semaine. Hier, on a entendu des premiers témoignages, sa sœur notamment, une visiteuse de prison qui est venue décrire un homme très cultivé, très intelligent, avec lequel elle parlait religion, spiritualité, sens de la vie. Elle dit l'homme capable d'être possédé par des démons, moi je ne l'ai pas connu. Et en ce moment, c'est une enquêtrice de personnalité qui retrace le parcours de Jean-Marc Reiser. C'est habituel devant une cour d'assises. Elle part de son enfance pour évoquer aussi ses rapports aux femmes, son parcours carcéral, son parcours judiciaire. On apprend par exemple que Jean-Marc Reiser, il avait passé l'ENA, il avait échoué.
On va écouter le cousin de Sophie Le Tan qui était hier. Il y a toujours une force des témoignages et beaucoup d'émotions.
C'est très dur pour la maman. Déjà en arrivant, vous avez bien vu comment quel état elle était. Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au procès. Je n'ai pas vu Jean-Marc arriver dans le box, donc parce que je m'occupais de la maman. Je suis arrivé après. Et je dois vous avouer que même moi, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi... C'est très dur, c'est très dur. C'est très palpable, la tension du procès, les difficultés du procès, c'est très dur. C'est d'autant plus dur lorsque tout se déroule en détail, l'histoire du début à la fin, avec des détails qui sont très durs à entendre, comme le passage où il s'acharne contre elle comme un boucher. C'était vraiment pas évident, mais bon, c'était nécessaire pour le premier jour.
Journée éprouvante, Noémie Schulz, notamment pour la mère, évidemment, de Sophie Le Tan.
Oui, s'il y a un son qui doit résumer la journée d'hier, c'est ce long gémissement de douleur de la mère de Sophie Le Tan, quelques minutes après l'entrée de Jean-Marc Reiser dans le box des accusés. On l'avait vu dès l'arrivée, cette famille, elle est très éprouvée. La petite sœur de Sophie Le Tan n'est pas présente, c'est trop compliqué pour elle, nous a dit l'avocat, une famille soutenue, portée à bout de bras. Et donc cette mère qui s'est presque évanouie dans la salle d'audience, qui a été évacuée par des secouristes et qui n'a pas assisté au procès. Les proches de Sophie Le Tan, ils seront entendus demain matin par la cour d'assises. Cet après-midi, on va entendre les anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser, des témoignages sans doute très à charge, puisque toutes ont été victimes de violences conjugales de sa part.
Écoutons l'avocat de la famille Le Tan, Gérard Welzer, que vous connaissez, j'imagine.
Bien sûr. Ce qu'on peut retenir cet après-midi, c'est que sa sœur est venue dire si c'est lui, c'est un monstre. C'est quelque chose de très important. Et alors que c'était des témoins, pour certains cités par la défense, bien ça s'est retourné contre lui parce que les gens s'estiment trahis, trompés. Vous avez vu le dernier témoin qui était venu pour dire du bien, qui va au restaurant du cœur. Et quand on lui a appris que M. Reiser avait
30 000 euros d'économie alors qu'il avait resté du cœur et qu'il lui donnait du pain, le témoin est tombé de l'armoire. C'est qu'un aspect de la personnalité, mais ça commence à montrer il ment sur tout, il trahit tout le monde.
Gouverner, c'est aimer. Yves Marek nous a rejoint. Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. On en parlera dans quelques minutes. Merci d'être avec nous. Mais Alain Jakubowicz, ce n'est pas sur ce procès que je voulais vous interroger, mais sur la tribune que vous avez écrite dans Marianne. Tribune qui m'a beaucoup intéressé. Merci Noémie Schulz. Hein. Je dis merci à Noémie qui est en direct de Strasbourg, bien sûr. Et qu'on retrouvera dans les éditions de CNews. Donc, dans une tribune accordée à Marianne, vous expliquez que la justice doit prendre à leur juste mesure la gravité des faits et des souffrances endurées par les femmes. Et vous êtes intervenu notamment sur les violences gynécologiques faites aux femmes. Mais vous ajoutez, le combat contre les violences faites aux femmes est un sujet trop grave pour être confié à un carteron de militantes pour qui tout homme est un agresseur en puissance. Et elle est très courageuse, cette tribune que vous avez écrite, parce qu'elle va un peu à contresens et elle va peut-être vous désigner comme une cible précisément des féministes.
Oui, ça c'est pas très grave. Non, mais ce qui est important dans ces tribunes, c'est quand je cite Thémis, en fait, la déesse de la justice, qu'on représente avec une balance dont les deux plateaux sont parfaitement équilibrés. Le problème de notre justice, c'est qu'on n'arrive pas à maintenir cet équilibre. Et que, alternativement, on fait peser le poids d'un côté, puis de l'autre. Tout pour l'accusé, puis tout pour la victime. Or, la justice pénale, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le juste équilibre. Et actuellement, effectivement, à la faveur de débats de société, à la faveur de l'air du temps, à la faveur de mouvements et de militantisme actifs, effectivement, on déséquilibre totalement la balance de la justice. Et ça, c'est absolument terrible. Je crois qu'on est, je hurle depuis suffisamment longtemps hein, sur ce sujet du procès médiatique qui tient lieu de procès tout court. Et je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que je suis aussi insistant sur l'importance de la justice et sur la désignation du choix du ministre de la Justice, parce que d'abord, on doit revenir sur tout ça et le prendre totalement en considération. Oui, le combat contre les violences faites aux femmes est un vrai combat et heureusement qu'on a avancé sur ce sujet, mais ce n'est pas par d'autres excès qu'on va régler le problème.
Alors, voilà, Adrien Spiteri à 10h15, mais non, c'est pas tout parce que ça m'intéresse vraiment votre avis. On va poursuivre quelques secondes cette discussion. Adrien Spiteri.
Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet prochain, une revalorisation de 3,5% selon le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition. Aujourd'hui, c'est Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui a ouvert le bal ce matin. Viendront ensuite les chefs des groupes socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. Et puis 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, 3 personnes ont été interpellées.
Histoire absolument horrible, sordide, que ces 46 migrants qui sont décédés, bien évidemment. La tribune de Alain Jakubowicz dans Marianne. C'est vrai qu'aujourd'hui, la parole des accusateurs est sanctifiée. On va écouter une ancienne patiente de Chrysoula Zakharopoulou, qui est donc cette femme gynécologue et qui est aujourd'hui au ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'a dit cette dame, parce que ce témoignage, et deux autres d'ailleurs, mettent en difficulté Madame Zakharopoulou.
Au rendez-vous, elle est arrivée en retard, en tenue de sport, avec un sac de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un poing qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit « Mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit « C'est très bien, c'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. » Derrière tout ça, Je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
Alors là, on a un cas d'école. C'est-à-dire qu'une femme qui accuse, la réponse médiatique qui se met en place, c'est-à-dire qu'on lui donne un espace important, il y a de l'émotion, forcément, il y a un témoignage fort. On ne sait pas grand-chose, évidemment, de la consultation, personne n'y était, mais Madame Zakharopoulou est montrée comme...
Mais qui donne la parole à cette dame Et ce qu'elle dit est sûrement vrai. Oui. Le problème, c'est qu'on se trompe totalement. Peut-être que cette médecin, aujourd'hui au gouvernement, a manqué de tact et de délicatesse, c'est parfaitement possible. Peut-être qu'elle avait dans son métier, et c'est vrai que dans ce métier, c'est particulièrement difficile.
On parle de viol, là.
Oui, mais où est le viol, quoi? Je veux dire, on a une femme qui vient à un examen. Qui vient, mais c'est aberrant.
Oui, mais vous dites les médias. Parfois, on fait le procès des médias. Mais c'est le parquet qui a ouvert une enquête pour viol. Donc après, les médias sont piégés, ils rapportent cette information.
Écoutez, je veux dire que les mots ont un sens, encore une fois. Et là, on est dans une pratique gynécologique. En plus, là, dans un traitement qui est particulier, que je connais bien, parce que je suis ça sur le plan professionnel, qui est l'endométriose, qui est une pathologie atroce, terrible.
Pourquoi le parquet?
Écoutez, alors, je ne savais pas que le parquet avait ouvert une enquête. Vous êtes certain de l'information sur le sujet?
Pas sur cette jeune femme, pas sur celle-ci. Mais le parquet a ouvert deux enquêtes suite à des plaintes qui avaient été déposées.
Oui, ben écoutez, moi,
C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été classées.
Demander au parquet, quoi. Je veux dire, c'est... On est dans le délire et évidemment on est dans un dévoiement total, ce qui ne veut pas dire que cette femme n'a pas vécu un enfer et une immense douleur, sans doute des problèmes qui relèvent peut-être d'ailleurs du Conseil de l'Ordre des médecins sur un problème d'approche, de pratique professionnelle, mais certainement pas de la cour d'assises pour viol. Et voilà les excès, voilà pourquoi je vous parle de tennis, voilà pourquoi parle des deux, plateaux de la balance, en rappelant d'ailleurs, s'agissant de tennis, que Thémis a les yeux bandés et qu'elle tient dans la main un glaive.
Mais moi je suis d'accord, je suis plutôt d'accord avec vous Alain Jacobowitz, et je trouve que c'est courageux de le dire, parce qu'effectivement vous allez prendre une volée de bois vert peut-être.
Oui, j'ai un peu l'habitude, mais c'est pas le sujet, je crois profondément en la justice. J'ai toujours la candeur du débutant. Il y a quelques années, quelques décennies que je pratique ce métier, mais j'y crois.
Mais elle est influencée par l'air du temps. Toujours,
bien sûr, et c'est bien pour ça que cet air du temps, il faut le chasser du prétoire, du prétoire. Oui. Mais vous tous, vous réinsérez l'air du temps.
Mais non,
dans
c'est le parquet, je vous dis, c'est le parquet.
Oui,
non, mais,
bien sûr,
je vous assure, mais à la marche.
D'accord, très bien.
Moi, je suis. Si le parquet n'avait pas ouvert d'enquête, on en parlerait pas.
Le problème, c'est précisément que cela va jusqu'à infuser le parquet. Vous savez, actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a 5 magistrats professionnels qui sont en train de prendre une décision dans une affaire criminelle terrible.
Oui.
Eh bien, j'aimerais pas être à leur place. Parce que le sujet qui est le leur aujourd'hui, peine maximale, pas peine maximale. Attendez, c'est pas aussi évident. Parce que derrière, il y a appel ou pas appel? Nouveau procès ou pas nouveau procès?
C'est-à-dire qu'on pourrait repartir pour 9 mois dans le procès.
Il est évident, moi je vais vous dire, un accusé qui conteste une peine maximale et qui interjette appel, c'est un nouveau procès.
Bon.
Mais des magistrats professionnels, effectivement, ne tiennent pas compte de cela. Mais
il reste 7 minutes. Donc, monsieur Marek, on est très en retard. Un mot sur le G7, simplement, avec vous. Et, oui.
Ça commence.
Un mot sur le G7.
C'est fini.
Bon.
L'OTAN qui commence.
Bon, d'accord. Vous ne voulez pas me parler de ce qui s'est passé à Kremenchuk et du missile russe?
Les missiles russes, on a un peu de recul. Les Russes ont tiré à peu près 2000 sur l'Ukraine depuis la fin février. C'est beaucoup. Et d'après le renseignement américain, les deux tiers ne sont pas arrivés sur leur cible. Soit qu'ils ont été, ils sont perdus en route, soit qu'ils ont été détruits en vol, soit qu'ils soient tombés à côté. Donc ça laisserait penser qu'après tout, ce missile n'est pas certain qu'il visait ce centre commercial. Sauf qu'il n'y a rien à l'alentour. Donc tout le monde pense que c'est une provocation qui a été montée par les Russes à la veille donc de l'ouverture du sommet de l'OTAN. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme un attentat terroriste. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup le tragique qui au milieu des rayons. Vous êtes dans votre vie ordinaire, la vie banale. Et puis vous avez la guerre, la violence, et vous avez donc des gens en Bermuda et en t-shirt sur le parking en train de regarder flamber et la mort qui est là. Et ça, c'est le discours en lettres de feu de Vladimir Poutine qui explique aux sept occidentaux, les sept plus riches qui sont réunis dans leur petit club et qui l'ont chassé d'ailleurs du club, qui leur explique qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, qu'il est prêt à monter encore le niveau de la violence et qu'il les attend. Voilà.
Yves Marek, gouverner, c'est aimer. Je suis désolé de vous presser un peu.
Non, vous m'avez demandé un mot, c'est fait.
Gouverner, c'est aimer. Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Joli, alors. Joli sujet. Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Oui. Bon, gouverner, c'est aimer. Mais c'est aimer qui ? C'est aimer quoi ?
Alors, c'est bien sûr aimer le peuple. Mais au fond, ce que je veux montrer dans ce livre, qui rassemble des centaines de citations de penseurs, mais aussi d'écrivains, d'humoristes, depuis bien avant Jésus-Christ, les Chinois, la Renaissance italienne, nos propres moralistes, jusqu'à De Gaulle, Churchill, c'est qu'il y a une unité générale à penser, d'abord parce que la nature humaine est la même partout, mais que c'est d'aimer la nature humaine, pas seulement aimer le peuple. C'est-à-dire que la politique, c'est chose humaine. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre en regroupant ces pensées par des figures essentielles de ce qu'est des rapports entre les hommes. Parce qu'au bout du compte, la politique, ce sont des rapports entre les hommes. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait confiance ? Comment est-ce qu'on s'attache les gens ? Est-ce que ce sont par les bienfaits, par les promesses, par la crainte, en leur faisant peur ? Quels sont les rapports de dette ? Et quelles sont toutes les figures qui
Mais
sont
c'est vrai en politique, comme ça peut être vrai en politique, comme ça peut être vrai dans une entreprise, comme
tout
ça peut
fait.
Être vrai dans un vestiaire de football.
Tout à fait.
Et tout, moi, j'ai l'impression que la règle, c'est souvent qu'il n'y a pas de règle. J'ai vu parfois des managements très durs, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Je pense à un entraîneur de football qui tenait son vestiaire comme cela, et je ne le citerai pas là. Et puis, il y en a d'autres, au contraire. Je pense à Arsène Wenger, je vais le citer, qu'il disait, moi, je donne ma confiance à ceux qui sont avec moi. Je leur donne immédiatement.
Tout à fait. J'ai un chapitre sur la confiance,
voilà,
d'ailleurs.
Et c'est la seule manière pour moi. Et après, je leur demande d'adhérer à mon projet. Et c'est comme ça que je les gouverne. C'est-à-dire que je fais le tour de mon vestiaire, disait-il. Je dialogue un peu avec eux. On se met d'accord. Et après, je veux qu'ils adhèrent à mon projet. Et s'ils n'adhèrent pas, bon, c'est pas possible.
Mais c'est exactement cela. En fait, ce livre est un peu une sorte de manuel de sagesse de l'art de gouverner. Mmh. Et c'est très curieux, d'ailleurs, si vous regardez dans les librairies, vous avez de plus en plus de manuels pour les commerciaux, comment serrer la main à votre client, etc.
Comment
mettre des fleurs dans son bureau pour manipuler les gens et qu'ils soient heureux. Mais dans l'ordre politique, ça a disparu. Je dirais que depuis qu'on est rentré dans l'ordre démocratique, probablement, avant il y avait les conseillers des princes, il y a toute une littérature, Machiavel et les autres, mais depuis qu'on est rentré dans l'ère démocratique, en fait, nous vivons sur cette fiction qui est très nuisible à la politique, que le peuple, lui, est parfait, qu'il n'a pas de... que la politique, c'est uniquement des problèmes et des dossiers et des solutions. J'ai entendu d'ailleurs Jean-François Copé, il y a quelques instants, dire qu'il y a des problèmes et il y a des solutions. Et que finalement, les politiques n'ont qu'à faire ce que l'équation, en quelque sorte, dicte, et à ne pas être corrompu et être honnête. Et ce qui, finalement, dévalorise la politique. Et je dirais, mon ambition très, très, très téméraire dans ce livre, c'est de rappeler que, et pour la plus grande gloire de la politique et pour qu'on l'aime mieux, que la politique est chose humaine, qu'il faut savoir gérer le temps, qu'il y a la vanité, qu'il y a les intérêts, que les choses ont leur mouvement, et de montrer que de manière unanime, que ce soit de Tacite à De Gaulle, sur la nature humaine, tous les gens qui ont eu à exercer se sont fait les mêmes remarques, et notamment les écrivains, Romain Gary, Stefan Zweig, Albert Cohen et bien d'autres, parce que, évidemment, dès lors qu'il s'agit de la nature humaine, ce sont toujours les passions.
Elle ne change pas, il suffit de lire Saint-Simon pour comprendre que rien n'a changé. Mais alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, parce que moi j'ai le sentiment que nos démocraties sont difficilement gouvernables, que c'était plus facile pour le coup de gouverner il y a 50 ans, c'était plus directif peut-être, et qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué avec les réseaux sociaux, avec tout le monde donne son avis, etc. Bon. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui les qualités d'un très bon gouvernant? Par exemple, est-ce qu'Emmanuel Macron est un très bon gouvernant selon vous?
Ah non, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là.
Vous êtes là, mais attendez, vous êtes extraordinaire. Vous nous faites un manuel. Je rappelle que vous êtes énarque, hein, donc ça, vous m'avez fait une belle réponse d'énarque tout de suite, là, manifestement. Vous avez été conseiller culturel du président du Sénat, Christian Poncelet, vous avez dirigé le musée du Luxembourg, etc. Non, mais est-ce que c'est un bon gouvernant? Quelles sont ses qualités pour mettre en exergue votre...
Ce que je sais,
appliquer votre livre.
C'est un de ses amis qui me l'a dit, c'est que le jour de son investiture, il lui a recommandé la lecture de mon livre en lui disant que ça pourrait l'inspirer pour son second mandat. Donc je ne sais pas s'il l'a lu.
Bon. Mais c'est quoi un bon gouvernement?
Vous n'avez pas encore demandé si vous vouliez rentrer au gouvernement. Parce que normalement, c'est la question qui est posée sur ce
sujet. Mais sérieusement, c'est quoi un bon... quelles sont les qualités plus exactement d'un bon gouvernant en 2022?
Bien, aimer ce, au sens où je l'emploie, c'est-à-dire faire corps avec le peuple est l'élément essentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où la politique, c'est d'abord l'opinion. Et c'est assez intéressant de voir, d'ailleurs, quand on regarde à travers des millénaires d'histoire, c'est que même les pires autocrates ont toujours considéré que leur pouvoir était que dans l'amour de leur sujet. Il y a très peu de pouvoir qui est réellement fondé sur la force brute ou...
C'est toujours pour votre bien. On vous envoie en camp de redressement, c'est pour votre bien.
Même les autocrates ont considéré qu'ils devaient être...
Mais quelles sont les bonnes qualités, par exemple, à votre avis, aujourd'hui?
Et donc, à partir du moment où la politique poursuit le bien commun, et qu'elle a la conscience de ne pas gouverner pour un clan contre un autre, de ne pas appliquer de manière idéologique ou purement technocratique des solutions qui sont déconnectées de la vie. En fait, gouverner est facile. Et d'ailleurs, tout ce qui réussit dans la vie est
facile. Ma question était difficile puisque je ne sais toujours pas les bonnes qualités pour un gouvernant.
Il faut lire le livre alors.
Il faut lire le livre. Bon. Il est à 10h30, je vous presse un peu parce que vraiment j'en suis désolé. On va demander une demi-heure de plus à M. Nedjar l'année prochaine, je pense, pour avoir un peu plus de temps. Et c'est Adrien Spiteri qui nous donne les dernières informations. Que dites-vous? Vous marmonnez souvent.
Mais non, c'est l'inflation.
L'inflation, revient au début, vous l'avez dit. Adrien Spiteri.
Voilà. Bon. La dette aussi.
Clap de fin pour le sommet du G7. Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Ce mardi, le G7 se dit d'accord pour travailler sur le plafonnement du prix du pétrole russe et promet jusqu'à 5 milliards d'euros pour lutter contre l'insécurité alimentaire. UFC Que Choisir porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ces établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis les soignants du CHU de Bordeaux appelés à la grève illimitée. Les syndicats réclament des embauches et des augmentations de salaire. Pour soulager les personnels, la direction a déjà annoncé la semaine dernière que 600 lits seraient fermés cet été.
Alors il y a plein de citations. Comme dit Tacite, on est plus prompt à répondre à une injure qu'à un bienfait parce que la reconnaissance est un fardeau et la vengeance un profit. C'est horrible, la nature humaine. Franchement, c'est Machiavel qui disait ça. Alors évidemment, quand tu lis Machiavel et quand tu lis certains, la nature humaine, elle n'est pas toujours belle. Je renvoie à votre bouquin qui est édité chez Balland. Il y a une préface de François Baroin. « Gouverner, c'est aimer ». C'est vraiment très intéressant. Et je comprends que le président de la République ait eu envie de le lire. J'aimerais qu'il s'en inspire un peu, si vous me permettez. Et en revanche, merci à Rémi qui était à la vision aujourd'hui. Merci à Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation. Merci à Grégory Possidalo qui était au son. Marine Lançon et Théo Grévin étaient avec nous. Dans un instant, Jean-Marc Morandini. Puis ça nous a fait plaisir de vous revoir, Alain Jakubowicz. Vraiment, parce que vous n'étiez pas venu depuis longtemps sur ce plateau. Et c'est vraiment toujours intéressant de vous écouter. Merci à tous. Jean-Marc, dans une seconde.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.